Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition d'Inactuel. Ma première émission sera consacrée au lien qu'on peut faire entre les corsaires, les pirates et les pirates informatiques. La commission d'Adopi a d'ailleurs inconsciemment fait le lien puisqu'elle a installé des locaux rue de Texel qui portent le nom d'un grand pirate du XVIIe siècle. Alors d'abord une mise en contexte. Il a été beaucoup question de la loi Adopi dans les médias au printemps dernier, mais le sujet semble avoir disparu des unes de journaux alors que la nouvelle loi Lopsi durcit les propositions d'Adopi. Le texte qui sera examiné début 2010 par le Parlement prévoit des dispositifs de blocage des sites internet sans contrôle préalable du juge. Il ouvre donc la voie à un filtrage, donc à une forme de censure sur toutes sortes de sites. Le piratage informatique, et c'est ce que je voudrais montrer, est devenu un véritable phénomène politique dont l'événement le plus symbolique est l'élection en juin dernier d'un député pirate en Suède, où ce mouvement compte 50 000 personnes. Le mouvement français, quant à lui, s'est unifié en septembre pour la première fois. Et ces pirates défendent l'idée d'un accès optimal à toutes les informations que peuvent fournir les nouvelles technologies. Alors d'abord, ce qui est frappant dans la manière dont est perçu le piratage aujourd'hui, c'est une sorte de flottement généralisé, comme s'il s'agissait d'un phénomène entièrement nouveau. Or, on ne peut pas limiter le piratage à son actualité et aux dites nouvelles technologies. Les États craignaient déjà au XVIIe siècle d'être submergés par des puissances maritimes, océaniques, par des pirates. L'opposition entre monde autarcique clos et puissances maritimes sans limite peuple donc notre imaginaire politique. Les pirates, les corsaires, sont comme des hackers. Ils sont ceux qui refusent les cadastres, les codes civils, les adresses IP. Ils font peur. Ce n'est pas un hasard si Hobbes utilise l'image du Léviathan, un monstre aquatique. Il faut que la souveraineté s'étende et bloque les éléments fuyants et instables comme les pirates. Aujourd'hui, une même image angoissante du pirate est diffusée. On parle beaucoup des black hats, c'est-à-dire les hackers qui pillent des comptes bancaires, alors que ce n'est le cas que d'une minorité de pirates informatiques. Pourquoi fait-il aussi peur alors? Il symbolise l'individu désaffilié, l'esprit de prédation. Il ne se sent lié à aucun contrat social et en créant de son côté. Il se glisse dans les zones inoccupées par l'État, circulant entre les espaces de souveraineté. Les pirates symbolisent un monde liquide non sécurisant et revendiquent une certaine disjonction des flux sociaux. Face aux pirates, les États renforcent les lois d'ordre public sur un territoire donné. Mais on voit très bien que cela ne fonctionne pas, on aboutit à des blocages institutionnels. Les pirates sont un élément liquide qui exige donc du droit qu'il adapte ses instruments. Or, ce qu'on peut constater, c'est que depuis le XVIIe siècle, la piraterie, et donc le hackage aujourd'hui, sont condamnés avec la même matrice juridique, c'est-à-dire qu'on cherche à étendre le principe de territorialité et à détecter les pirates, puis on les exclut plus qu'on ne les punit. En fait, on les fiche, on les liste, on les isole et on les stigmatise en leur privant l'accès à la mer des échanges. Aujourd'hui, on déconnecte les suspects. Les possibilités multipliées de navigation créent donc un contrôle invasif. On les criminalise comme s'ils étaient des sortes de poux du système informationnel, alors que leur force exprimait des constructions politiques originales fondées sur l'idée de connexion. Le résultat est donc un contraste entre des lignes frontières fortes et des zones floues, entre par exemple un dispositif comme Lopsi et des sites comme Pirate Bay, totalement irréguliers, où on peut télécharger à peu près tout ce qu'on veut. Finalement, la vraie question n'est pas comment protéger la propriété intellectuelle, puisqu'on voit bien que c'est une question dépassée. Les pirates contourneront toujours les dispositifs faits pour les traquer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les bons outils théoriques pour évaluer la question du piratage, ce qui aboutit à des dialogues de sourds. Des dialogues de sourds entre fournisseurs d'accès et éditeurs, entre une logique du travail et de propriété cumulative et une logique de prédation, mais aussi un malentendu entre ceux qui sont favorables au piratage, puisqu'on a d'un côté des ultralibéraux qui sont favorables au peer-to-peer comme une évolution saine du marché, et d'un autre côté des altermondialistes qui rejettent l'idée de marché et donc qui sont favorables au peer-to-peer. On peut signaler également qu'Hollywood, comme industrie cinématographique, fut créée par des pirates en fuite qui ont migré vers la Californie pour échapper au contrôle des Edison, alors détenteur des brevets. Et c'est aujourd'hui Hollywood, comme industrie cinématographique, donc, qui est le plus opposé au piratage. Donc la vraie question que nous lègue le piratisme est plutôt, et je l'emprunte à Dominique Weber dans un article de la revue Esprit du mois de juillet, c'est de savoir si l'extrême fluidification du monde est vraiment capable d'instaurer un monde humain habitable. Et donc, la question de la propriété intellectuelle n'est plus d'actualité et sert simplement à attirer l'attention des médias. Tout de suite, je vous fais écouter une chanson du groupe Métropole qui s'appelle Enragé et ensuite une chronique de Pierre sur l'identité nationale.
À toutes ces idées noires, pensez la fin, cherchez couloir. Je m'effondre dans la masse. Je tente, je perce, je m'effondre.
Bonjour. Alors voici une nouvelle chronique et j'ai pas encore trouvé de titre parce que ça fait juste une heure que je viens de finir de la rédiger et donc j'ai pas encore trouvé de bon jeu de mots qui pourrait la définir. D'ailleurs j'éviterai un peu les jeux de mots parce que souvent ils tombent à plat. D'ailleurs je pense que vous avez remarqué le paradoxe de la chronique anormale puisque en fait elle a rien d'anormal ou de subversif et qu'elle se contente donc, à défaut d'être drôle dans le fond comme dans la forme, de parler de ce qui se passe à l'école. Mais puisque bon nombre d'entre nous y mangent, y dorment, y travaillent, bref, y étouffent, je vous propose de sortir un peu de l'ENS. Et je crois que donc j'ai trouvé un bon titre en fait. Ce sera en dehors de l'ENS, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à Lyon, en France ou à Groland? En dehors du monde de l'ENS, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas mal de choses parce que l'ENS est coupé du reste du monde. Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais au contraire des autres grandes écoles, l'ENS n'a pas encore réalisé de lip-dub. Alors, qu'est-ce que c'est un lip-dub? Je vous vois là, vous êtes en train de vous interroger. Il faudrait peut-être se réveiller et taper sur Google LIPDUB. Vous verrez alors que les lip-dub, c'est des clips réalisés en entreprise qui montrent tous les employés de la boîte qui chantent et qui dansent en playback sur une musique péchue, témoignant ainsi avec des sourires Colgate et dans une fausse bonne humeur à la clip de Mika, de la cohésion de l'entreprise, du bonheur de travailler ensemble, enfin toutes ces choses-là quoi. Et si je parle du lip-dub, c'est parce qu'en me promenant sur la toile, j'ai lu un article sur un blog montrant que le clip publicitaire de l'UMP pour les européennes reprenait l'idée de lip-dub. La chanson, elle est remplacée par le discours de Xavier Bertrand, et on voit alors, dans un très beau plan séquence, bien long quoi, chaque secrétaire, chaque employé du parti, et même de simples personnes marchant dans la rue, parlant avec la voix et les mots de Xavier Bertrand. Bon, le résultat est ridicule, mais surtout symboliquement consternant. Comme le disait un ami à moi, ce clip met en scène ce qu'est l'idéologie, c'est-à-dire un discours transindividuel et anonyme qui prend la voie de l'universel, dans lequel chacun est censé se reconnaître, et donc qui ne le remet pas en question. Un discours dans lequel tout le monde parle d'une voix commune, et où chacun parlant avec ses propres mots, parle avec ceux des autres, pour dire sa propre opinion, mais aussi celle des autres. Mais le plus intéressant dans ce discours, c'est que ce clip nous dit qu'il faut défendre les valeurs de l'Europe, et 20 secondes après, qu'il faut nous rassurer de ne pas avoir peur de lutter contre l'immigration clandestine. Voici donc ce que dit ce discours, et en cela il n'a pas tout à fait tort. Il nous dit l'identité se définit et se construit par opposition à l'altérité. Ce que nous sommes avant tout, c'est ce qui nous distingue et nous oppose de ce que les autres sont. Et cela implique aussi la reconnaissance de l'autre. Bon, je pense que vous avez vu où je voulais en venir, c'est-à-dire à la question de l'identité et de l'identité nationale, et au grand débat sur cette dernière qui a été entamé il y a en gros un mois par le parti de la majorité du gouvernement. Bon, je sais, vous lisez déjà le journal, vous écoutez la radio, vous regardez la télé, enfin non, ça je pense pas. Enfin bref, vous savez déjà pas mal de choses sur le sujet, mais fallait bien que j'en trouve un, et puis c'est une question d'actualité, puisqu'aujourd'hui s'ouvre le colloque de l'Institut Montaigne qui cherchera à répondre à la question passionnante s'il en est, qu'est-ce qu'être français? Donc c'est un vaste programme. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette rencontre devait être clôturée par le président de la République, et que finalement, c'est le Premier ministre qui viendra prononcer le discours de la fin. Alors pourquoi une telle rétractation? En fait, la question du débat sur l'identité nationale est loin de faire consensus dans le monde politique et même dans le monde de la majorité, puisque le parti de l'UMP est lui-même divisé. Ainsi, Jean-Pierre Raffarin a déclaré récemment que cette question de l'identité ne devrait pas être une réflexion de comptoir et qu'il fallait plus de rigueur intellectuelle dans la menée du débat. Par là, il critiquait l'entreprise d'Éric Besson. Elle intéressait a aujourd'hui répondu sur Europe 1 qu'au contraire, il se réjouissait qu'il y ait des réflexions de comptoir, puisque cela fait partie d'ailleurs de notre identité nationale. Et pourquoi une telle division sur une question qui, au départ, rassemblait toute la majorité? Éric Besson a donné implicitement la réponse à cette question, en affirmant que pour beaucoup de Français, la question se résumait à celle-ci. Est-ce que l'islam est compatible avec la République et la démocratie? Le problème du débat, donc, c'est qu'il pose moins la question de l'identité de la France que de l'immigration et de l'intégration des immigrés. Et cette question prend place dans un contexte tendu, après le vote suisse contre la construction des minarets, où plus de 57% des votants se sont prononcés pour l'interdiction de la construction des minarets. La question prend place donc dans un climat tendu et qui se tend de plus en plus. Ainsi, le 20h de France 2, du mardi dernier, a laissé la parole à quelques intervenants du débat de Verdun sur l'identité nationale, et on a pu entendre l'avis du maire de Gussainville. Donc si vous ne connaissez pas Gussainville, c'est normal, c'est une commune de 40 habitants, c'est-à-dire moins que le nombre d'habitants de bâtiment B de la résidence de l'ENS. Enfin, toujours est-il que selon ce maire, ce débat est, je cite, « plus qu'utile, il est même indispensable, il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer ». Et à la question du journaliste, par qui on va se faire bouffer, le maire a répondu, par qui, par quoi? Il y en a déjà 10 millions, faut bien réfléchir, 10 millions que l'on paye à rien foutre. Bonne polémique ou pas, après tout, ce pauvre maire s'est laissé emporter et n'avait pas prévu de discours officiel. Ce qui apparaît toutefois, c'est que face à de tels dérapages, l'UMP commence à regretter d'avoir lancé ce débat sur l'identité nationale. Crainte d'autant plus grande qu'un sondage IFOP pour le journal du dimanche a déclaré que près de 3/4 des interrogés pensent que le débat sur l'identité nationale constitue avant tout une stratégie pour gagner les élections régionales. Jugement qu'a relayé mercredi François Baroin, député de l'UMP de l'Aube, en déclarant que ce débat a quelques encablures des régionales, c'est gros comme un hippopotame dans une mare asséchée. Bon, j'aime bien l'image. Pour toutes ces raisons, rapprochement de la question de l'identité avec celle de l'immigration, instrumentalisation du débat à des fins électorales, invitation à un débat comme à une discussion de bistrot, on peut trouver aisément une réponse à la question que la circulaire ministérielle adressée aux préfectures pour encadrer les débats départementaux posés. Pourquoi la question de l'identité nationale génère-t-elle un malaise chez certains intellectuels, sociologues ou historiens? Pourquoi? Peut-être parce qu'un tel débat ne pourrait pas faire autre chose que d'opposer des prises de position caricaturales du style « la France c'est la baguette, le clocher et les marrons dans la cour de l'école à la rentrée de l'automne » ou bien « la France c'est la République, c'est l'universalisme » comme si par une chance inouïe notre identité produite d'une histoire avait la fantastique singularité de coïncider avec l'universel, comme le rappelle Alain Renaud dans un article du Monde du 7 septembre. Pour toutes ces raisons, de nombreux universitaires exclus de participer à la consultation sur l'identité nationale qu'on leur a proposée. L'anthropologue Michel Agier rappelle ainsi dans Libération que depuis un mois, nous sommes sans cesse sollicités pour prendre part à ce débat. Parmi nous, il y a des gens qui voudraient débattre, mais ils ne le font pas par peur d'être récupérés. Car si selon lui, dans un contexte académique, en débattre peut être tout à fait intéressant, les termes du débat n'invitent pas à une réflexion profonde et pacifiée, sachant que, selon son opinion, dans la circulaire adressée aux préfectures, 9 questions sur 10 désignent l'immigré comme un problème pour l'identité nationale. Ainsi, plus de 20 chercheurs en sciences humaines ont décidé de refuser de participer au débat et ont monté un collectif pour rédiger un appel exigeant la suppression même du ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Parmi eux, on compte Étienne Balibar, Luc Boltanski, Paul Virilio ou Zvetan Todorov. Bon, j'arrête là puisque la chronique s'appelle En dehors et que j'en viens à parler du monde universitaire, je commence à me rapprocher de l'école normale. Dans tous les cas, si le débat sur l'identité nationale vous intéresse, je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera le centre de l'émission centrale de la radio.